L'article « Le fin de l'histoire » que j'ai publié en 89, j'ai dit au fin de l'article qu'il sera le nationalisme, la politique religieuse, tous ces sont des possibilités dans le monde moderne. Mais pour une société qui veut être moderne, il faut avoir une économique de marché et aussi un système de accountability qui s'appelle démocratie. Il n'est pas possible de gouverner une société moderne en l'absence de ces institutions et je pense que c'est vrai maintenant.
La voix de l'Américain Francis Fukuyama, le père de la fin de l'histoire, d'une saison à l'autre dans l'actualité des idées aujourd'hui. L'hiver arrive avec l'essayiste Nicolas Beuvray, membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, éditorialiste au Point et au Figaro. Après Danser sur un volcan et Chronique du déni français, il publie un nouvel essai Mise en garde, violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle aux éditions de l'Observatoire, où il fait le constat d'une violence globalisée et de démocratie en danger, comme dans son précédent essai, un maître mot, le déni avec lequel il faudrait rompre de toute urgence. Bonjour à vous Nicolas Beuvray.
Bonjour.
Thème du sommet qui a réuni hier à Versailles une centaine de dirigeants de multinationales, choisissez la France. L'Hexagone a de nouveaux atouts pour vous à mettre en avant aujourd'hui ?
Oui, la France très clairement voit son image tout à fait transformée à l'étranger et par ailleurs il y a un début de redressement.
Un début de printemps.
Enfin en tout cas on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la France est redressée, mais les conditions politiques et psychologiques du redressement sont présentes. Ce qu'il faut ajouter, et ce qui nous ramène à la situation des démocraties, c'est que l'image de la France bénéficie aussi des difficultés des autres pays. Les États-Unis sont en train de liquider leur leadership et leur soft power avec Donald Trump. Le Royaume-Uni est entré dans une dépression collective avec le Brexit. Et ce qu'on disait à l'instant, l'Allemagne peine à trouver un gouvernement et l'Espagne est en proie au sécessionnisme catalan. L'Italie reste peu gouvernable et aborde des élections compliquées. Donc, et le groupe de Visegrad, l'Est de l'Europe, maintenant communie dans la démocratie illibérale. Donc la France bénéficie aussi des difficultés des autres en présentant aujourd'hui justement ce couple que recherchent un peu les investisseurs, c'est-à-dire la stabilité politique d'un côté et une capacité d'accélération si les réformes se font de l'autre.
Le tournant protectionniste américain peut nous profiter, c'est ce que vous évoquez Nicolas Beuvray, nouvelle fiscalité aussi, réforme du code du travail à l'intérieur. La France aurait à nouveau la cote auprès des investisseurs. Que vaut pour vous cette marque France dans le concert des économies mondiales? Si on resserre un tout petit peu le spectre, moins sur la question politique que sur la question économique, puisque c'est à Davos que s'ouvre aujourd'hui le 48e forum avec des dirigeants de 60 pays, 1700 entreprises sur ce point, sur la question économique. Que vaut la marque France à vos yeux?
Alors, la marque France, elle existe, puisque quand on prend nos secteurs d'excellence, il y en a un qui est totalement lié à l'image de la France, qui est le luxe. Et y compris des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile qui se portent bien. La France fait partie des pays qui ont inventé ces industries à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que la France ressemble un peu à la situation de l'Angleterre des années 70, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'atouts, avec la France a du capital humain, une démographie qui commence à souffrir, mais elle a du capital tout court, des infrastructures, des services publics qui sont hétérogènes mais qui restent en moyenne de bonne qualité. Elle avait une diplomatie, une défense, son patrimoine, sa culture, son mode de vie. Et tout ça était stérilisé par un système politique et social qui était complètement paralysé. Aujourd'hui, le système est en mouvement. Maintenant, il reste vraiment à faire le redressement. Et ça va faire partie des grandes questions des années qui s'ouvrent. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la France, ce qui a été dit tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un pays où la croissance plafonne, où le chômage se réduit de manière très lente, où la pauvreté reste très profonde et où les inégalités autres que de revenus, parce qu'en termes d'inégalités de revenus, la France est le pays le moins touché dans le monde développé, mais en revanche, les inégalités de statut, les inégalités en termes d'éducation, de logement, d'intégration dans la société, celles-là sont gigantesques. On a quand même plus de 2 millions de jeunes qui sont en dehors de tout emploi, de toute formation et qui se promettent donc, non, c'est pas seulement un problème économique, c'est vraiment un problème social. Et politique. Quel avenir leur promettons ?
Alors, on va revenir aussi sur cette question des inégalités qui est centrale, là encore, à Davos, à partir d'aujourd'hui. Juste ces 10 millions d'euros que Facebook va injecter dans le secteur de l'intelligence artificielle en France, ça fait partie des petits signes positifs pour vous ?
Oui,
ou c'est très anecdotique ?
Pour moi, c'est anecdotique. Ce qui est important en France, c'est que qu'est-ce qui est important sur l'intelligence artificielle ? C'est le capital humain, là encore. Il se trouve que la France a des vrais atouts, puisqu'on a une des meilleures écoles mathématiques au monde, et qu'il y a par ailleurs, en matière de recherche informatique fondamentale, des ressources très importantes. Donc c'est ça qu'il faut mobiliser. Qu'il y ait de l'argent privé, y compris américain, qui vienne. Jusqu'à présent, ce qui était dommage, c'est que beaucoup de nos meilleurs chercheurs sont allés s'installer sur la côte ouest des États-Unis parce qu'ils ne pouvaient pas travailler en France. Donc je crois qu'au-delà des 10 millions de Facebook, ce qui est très important, c'est que on donne un univers de travail convenable à ces chercheurs de très haut niveau qui existent chez nous, mais qui, dans les dernières années, se sont beaucoup exilés.
Nous sommes en plein déni, voilà ce que vous nous dites, Nicolas Bavret. Et ça a commencé avec le déni de l'importance de la crise financière et économique de 2008. Depuis, c'est une succession de petits et moyens dénis que vous affichez et que vous recensez encore dans cet ouvrage « Violence et passion ». Les démocraties libérales sont-elles, pour vous, quand même aujourd'hui en train de se relever de la crise financière de 2008 ? Ça veut dire, est-ce qu'une nouvelle étape est en train d'être passée qui va permettre de s'attaquer à tous ces sujets que vous définissez alors, comme dramatique.
D'abord, je trouve que la citation par laquelle vous avez commencé cette émission est excellente, parce que l'origine des problèmes, c'est bien la chute de l'Union soviétique et cette espèce d'illusion sur la victoire définitive des démocraties et l'avènement universel de la démocratie de marché. Donc ça a été affirmé géopolitiquement avec les attentats du 11 septembre 2001, économiquement avec le krach de 2008. Et quand on entendait Francis Fukuyama dire qu'un pays moderne était forcément une économie de marché et un endroit où les libertés fondamentales étaient reconnues, parce que sinon on ne pouvait pas avoir de créativité. On a un contre-exemple majeur aujourd'hui qui est la Chine. C'est un pays capitaliste, mais c'est pas une économie de marché parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Et c'est un pays très clairement qui est en train d'essayer de prendre, y compris le leadership technologique en créant un internet chinois, avec un contrôle très fort de l'économie et de la société par l'État. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Le krach de 2008, c'est le pire depuis 1929. Il est vrai qu'on a évité une nouvelle grande dépression en injectant 40% du PIB de dette supplémentaire venant de Chine et dans les pays développés. On a sauvé les banques, on a évité l'effondrement de secteurs entiers comme l'automobile, mais on a perdu les citoyens. Donc, il est vrai qu'on a échappé à une grande dépression économique, mais les années 2010, c'est la décennie de la dépression politique et géopolitique. C'est-à-dire que les démocraties sont prises en étau entre, d'un côté, la remontée des risques géopolitiques, le djihadisme, les démocratures, et de l'autre côté, le choc populiste qui vient précisément du cumul de la mondialisation, la révolution numérique, et le tout, évidemment, aggravé par les séquelles du choc de 2008.
Et ça, pour vous, c'est une fin de cycle ou le début d'un autre ? On est à quel moment de l'histoire ?
On est dans la période de tournant, un peu comme dans les années 30. Dans les années 30, on avait grande dépression, plus grand choc de l'histoire du capitalisme, montée des régimes totalitaires et une forme de transition entre le leadership du Royaume-Uni et le leadership des États-Unis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une configuration un peu semblable, c'est-à-dire une grande révolution du capitalisme, un basculement du monde des États-Unis vers la Chine. Ça, c'est l'autre dimension de Davos que je trouve faiblement soulignée. C'est que, et si on refait un peu, là encore, on prend un peu de recul, c'est que 2016, ça a quand même été, Davos a été symbolisé par la venue de Xi Jinping, qui a développé sa stratégie et qui a repris à son compte, d'une certaine manière, les idéaux occidentaux, en expliquant que maintenant, c'était la Chine qui allait promouvoir la mondialisation, le multilatéralisme et qui allait s'engager dans la défense de l'environnement. Et cette stratégie a été renforcée, explicitée lors du 19e congrès du Parti communiste chinois. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir la réponse de Donald Trump et sans doute la confirmation que, en face de cette stratégie chinoise très cohérente, les États-Unis conservent sûrement des facteurs de puissance, leur armée, la technologie, la vitalité de leur société, mais qu'il n'y a plus de stratégie cohérente des États-Unis en face de celle de la Chine, avec à la fois le monopole du Parti communiste, la volonté de maîtriser la mer de Chine et de devenir le pays leader sur l'Asie-Pacifique et la projection de puissance tout au long des routes de la soie. Donc c'est je trouve que cette intervention de Donald Trump sera importante. Et puis vous avez aussi, pour prendre là aussi un peu de champ, Narendra Modi et l'Inde, c'est important. Pourquoi ? Parce que l'Inde va devenir cette année la cinquième puissance économique du monde, devant la France et le Royaume-Uni. Donc, dans les cinq premiers, on a maintenant trois Asiatiques, la Chine, le Japon et l'Inde. Et si on pense que l'Asie est en train de devenir le nouveau centre du monde, que le 21e siècle va se jouer autour de la confrontation entre les démocraties et les démocratures, l'Inde, avec sa violence, avec ses problèmes, est néanmoins une vraie démocratie avec des alternances et avec des institutions de l'état de droit. Donc cette confrontation également entre la Chine et l'Inde est importante pour le destin du siècle.
Ce qui est bien, c'est que vous êtes un des derniers, ou peut-être un des premiers, à attendre aujourd'hui quelque chose de Donald Trump, c'est-à-dire à espérer qu'à travers lui, l'Amérique, les États-Unis redonnent de la voix dans ce concert des nations, retrouvent leur place de leadership.
C'est pas une histoire, non, je ne crois pas que les États-Unis vont retrouver leur... Je pense que la destruction du leadership et du soft power américain comporte en tout cas une part d'irréversible, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais le retour à ce qu'ont été les États-Unis pendant la deuxième partie du XXe siècle. La question qui se pose, c'est est-ce que les séquelles laissées par l'expérience Trump seront-elles que les États-Unis ne pourront pas, dans un avenir prévisible, reconstituer une stratégie cohérente et globale dans le système du XXIe siècle.
Une question d'Antoine Mercier.
On ne sait plus très bien ce que vous défendez quand même, Nicolas Bavray, parce que d'un côté, vous nous faites un tableau des puissances qui sont en lutte pour un leadership et pour s'imposer. D'un autre côté, vous nous dites, non, ce qu'il faut défendre, c'est la liberté dans tout cela. Si le plus fort n'a pas la liberté, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ?
Aujourd'hui, c'est la grande question que pose l'émergence de la Chine. C'est un pays qui a programmé explicitement de devenir le leader mondial au plus tard en 2049. Et c'est un pays qui très clairement a fait le choix, contrairement au pronostic de Fukuyama, de refuser la liberté politique. Donc c'est la grande question historique qui va se poser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le double choc, le choc économique, mais surtout le choc politique du populisme, fait que les démocraties ont laissé un énorme espace aux démocratures et que des pays comme la Chine de Xi Jinping ou la Russie de Poutine ou la Turquie de...
Mais si c'était plus efficace finalement ? Sur le plan de ce que vous dites comme étant le champ de bataille du monde.
Oui, l'histoire n'est jamais jouée à l'inverse. Le pari de la Chine, c'est de dire qu'elle va mieux gérer les armes de l'Occident, donc elle va mieux gérer les technologies, elle va mieux gérer le capitalisme et elle va davantage satisfaire un certain nombre de demandes de son peuple. Les choses ne sont pas écrites, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes fragilités en Chine, il y a des problèmes de dette, il y a le problème de savoir si on peut avoir une société de connaissances à très forte valeur ajoutée sans liberté politique. Est-ce qu'on arrive à être créatif dans ces conditions ? La question de savoir s'il n'y a pas une surexpansion chinoise, puisque les routes de la soie, c'est quand même 900 milliards de dollars d'investissement. Et par exemple, au Venezuela, la Chine a investi 65 milliards de dollars dans un régime qui est maintenant en faillite. Donc la Chine a perdu 65 milliards de dollars, ce qui est quand même une somme. Donc bien sûr, les questions ne sont pas ouvertes, mais c'est Si vous voulez, c'est là que je crois qu'il est important d'en appeler aux dirigeants, mais aussi et surtout aux citoyens des démocraties, parce que le citoyen est le garant ultime dans les démocraties quand les choses vont mal. C'est-à-dire que soit nous rééditons les erreurs des années 30, nous refusons de comprendre la Grande Dépression, nous refusons de comprendre les totalitarismes, les gens se désunissent à la fois au sein de l'Europe et puis entre les États-Unis et l'Europe, et c'est vrai que la liberté politique sera en grand péril. Soit on accepte de regarder ces risques, et on accepte aussi de parier sur ce qui fait que finalement, la liberté politique a survécu au XXe siècle, aux grandes crises et au totalitarisme. C'est-à-dire que ces régimes retrouvent en eux-mêmes la capacité de se remettre en cause, la capacité de se critiquer, la capacité de se réformer, et la capacité aussi de voir qu'au-delà des divergences d'intérêts qui sont parfaitement légitimes, mais qu'il existe quand même au bout du bout une communauté de valeurs et une communauté de destin entre les nations qui se réclament de la liberté politique.
Les États-Unis ont renoncé à leur rôle de gendarme du monde. Un peu partout sur la carte du monde, les démocratures donnent de la voix. Turquie, Chine, Russie étirent la couverture à elles. Ça, c'est votre constat, Nicolas Bavret, à Davos. Le président français Emmanuel Macron plaidera demain pour une mondialisation éthique. Là, le président y voit en tout cas une opportunité en termes politiques et économiques. Vous y voyez surtout dans cette mondialisation un terrain de conflit, un vecteur de violence. Comment tendre vers une mondialisation heureuse plutôt que menaçante pour vous, Nicolas Bavret?
La mondialisation n'est pas heureuse ou malheureuse. La mondialisation, c'est un grand mouvement historique qui a démarré donc dans les années 80, et c'est un mouvement dialectique avec deux types de forces. Il y a des forces d'intégration, le capitalisme et les technologies. Et puis il y a des forces de désintégration qui sont la différence des valeurs, des institutions, des cultures. Et donc, c'est vrai que le moment que nous vivons, c'est le moment où les forces de désintégration ont pris le pas sur les forces de cohésion. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et d'une certaine manière, c'est ce à quoi invite le titre choisi par le Forum de Davos, même si je doute beaucoup qu'on ait vraiment des solutions. C'est que, pour répondre à cette montée de la violence et à ces risques de confrontation, il faut arriver à recréer de l'inclusion, de l'unité. Donc, c'est vrai, à l'intérieur des nations, face à ces grandes forces, par exemple à la révolution numérique, ça a été dit, la seule vraie réponse, c'est l'éducation, la formation. Il faut refaire des nations, mais c'est vrai aussi, par exemple, au sein de l'Europe, où si on a le Brexit, en revanche, par exemple, en matière de sécurité, il faut continuer à entretenir des politiques de sécurité communes avec le Royaume-Uni. Et c'est vrai avec les États-Unis, où on va rentrer dans un monde en partie post-États-Unis. Il faut s'y adapter, évidemment. Ce serait criminel de ne pas le faire, mais il faut ne rien faire pour aggraver l'éclatement et la fracture de l'Occident.
Mais je ne vois pas où le capitalisme intègre plus qu'il ne désintègre. Vous l'avez évoqué vous-même au début de l'émission, le problème des inégalités aujourd'hui. 82% de la richesse mondiale créée en 2017 dans le monde, entre les mains des 1% les plus riches de la population. C'est quand même des chiffres qui interpellent. On peut parler aussi du constat qui est relayé en ce moment par les ONG, notamment par Oxfam, des inégalités qui se creusent, des plus riches qui ne se sont absolument jamais aussi bien porter face à cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt renforcer les contrats sociaux, finalement, qui sont au cœur de nos sociétés, envisager une meilleure répartition des richesses, plutôt que de réduire, comme vous l'évoquez, le poids des dépenses sociales en France?
Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que le capitalisme est juste une machine à désintégrer? La réponse est évidemment non, puisque si vous prenez le début de la mondialisation, on a plus de 2 milliards d'hommes qui sont sortis de la pauvreté. Simplement, en face de ces 2 milliards d'hommes qui sont principalement en Chine, en Inde, au Brésil, on a un énorme choc sur les classes moyennes des pays développés. Mais si vous regardez la mondialisation au plan planétaire, elle a beaucoup plus intégré que de gens dans le capitalisme. Elle en a fait beaucoup plus. Le capitalisme a fait sortir beaucoup plus de gens de la pauvreté que toutes les politiques alternatives et les recommandations des tiers-mondistes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors maintenant, il est bien vrai que c'est une machine aussi à polariser les emplois, les entreprises, les nations, et qu'il faut avoir des politiques publiques. Mais Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de politique publique, mais que les politiques de l'État-providence, qui étaient principalement centrées sur des risques du XXe siècle, ne sont pas forcément efficaces. Pourquoi ? Parce que l'État-providence du XXe siècle se contente de distribuer des chèques. Quand on regarde aujourd'hui ce que c'est qu'une trajectoire d'exclusion, c'est une trajectoire qui accumule les handicaps sur les mêmes. Donc si vous ne faites que distribuer des chèques, vous laissez les gens là où ils sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, on a 10% de la population qui vit uniquement de transferts de l'État-providence, mais qui se trouve complètement reléguée en dehors de la société et de l'économie.
Au XXe, il investissait déjà dans l'éducation, il investissait déjà dans la santé. Je veux dire, c'était pas simplement des chèques distribués sans aucun retour, non ?
Oui, mais si vous voulez, prenez par exemple la santé ou l'éducation, on voit qu'aujourd'hui, ce sont sur les mêmes territoires et les mêmes gens que vous avez, alors qu'on a 57% du PIB et 34% du PIB de transferts sociaux en France, ça n'empêche pas qu'on ait les mêmes gens qui ont des problèmes de chômage, des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas en fait accès au système de santé et des problèmes d'éducation parce qu'on a un jeune sur cinq qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Et donc, ça n'est qu'en réorganisant les choses pour traiter les problèmes à la racine et reprendre et avoir des parcours d'insertion, mais qui ne peuvent plus être simplement gérés comme des catégories administratives, qui doivent être des parcours individuels de réinsertion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État et nos services sociaux ne sont pas équipés pour faire ça. Ils sont équipés pour distribuer de l'argent.
Antoine, merci.
Je voudrais revenir à la vision un peu globale. Vous nous parlez donc de cette tension entre mondialisation d'autre part et retour des fragmentations qui va avec. J'avais envie de vous demander s'il n'y a pas quand même là une dialectique qu'il faut prendre en compte, en ce sens que plus les choses se mondialisent, plus les choses par le marché, le numérique s'uniformisent, plus précisément ce mouvement de repli, de recul ou de maintien ou de préservation des différences a tendance à se renforcer. Donc là, on est devant peut-être quelque chose de plus difficile à...
Vous avez totalement raison, et je pense que c'est la grande difficulté de notre temps. On a mis, à cause de ces schémas sur la mondialisation heureuse ou malheureuse, on n'a pas compris exactement cette dialectique, qui est que plus on mondialise, plus on est dans l'histoire universelle, et plus, en même temps, les identités se renforcent, s'exacerbent et s'opposent, avec parfois, et parfois pour le pire, avec les deux passions politiques les plus puissantes qu'avait bien perçu Tocqueville, c'est-à-dire le nationalisme et le fanatisme religieux. Donc il est bien vrai. Et par ailleurs...
C'est quoi l'histoire universelle, pardon, Nicolas Bavret ?
L'histoire universelle, c'est le fait que tous les hommes vivent aujourd'hui la même histoire, en dehors de quelques peuplades qui vivent encore dans des endroits extrêmement reculés, de moins en moins d'ailleurs séparés du reste. Mais sinon, aujourd'hui, avec des positions évidemment très différentes, mais c'est le même système capitaliste global et l'information circule de manière instantanée, libre. Mais les gens ne vivent pas dans le même temps. On en parlait, les États-Unis et la Chine qui rivalisent pour le leadership du XXIe siècle. On a le monde arabo-musulman qui vit au temps des guerres de religion. Ça ressemble un peu à l'Europe du XVIIe. On a l'Afrique qui essaye de construire son décollage, comme l'Europe au XIXe siècle, avec l'urbanisation. Et puis on a une Europe qui se rêve un peu sortie de l'histoire. Et c'est certainement un risque, parce que ce monde est pour elle plus dangereux. Elle a perdu son grand allié qui étaient les États-Unis, et elle a des difficultés intérieures, même si son économie va mieux, avec sa démocratie, à cause de la pression des populistes.
Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer, disons, l'envie de ce monde occidental, libéral, enfin en tout cas de l'Europe ? Vous citez évidemment Husserl à la fin du livre, sur sa conférence sur la crise de la pensée européenne et la philosophie, qui concluait ainsi « La crise de l'existence européenne n'a que deux issues, soit la décadence de l'Europe, devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute dans l'hostilité à l'esprit et dans la barbarie, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie grâce à un héroïsme de la raison. Le plus grand danger pour l'Europe, c'est la lassitude. Cette lassitude dont parle Husserl, là, on y est encore en plein et on ne voit vraiment pas ce qui pourrait faire retrouver à l'Europe, même si les idées de liberté sont toujours très fortes et très défendables, évidemment, ce qui pourrait faire retrouver cette vision d'une projection pour ce monde occidental libéral tel qu'on le connaît aujourd'hui pour l'avenir et qui permettrait précisément de pouvoir peser sur le devenir.
Alors la lassitude, elle existe aussi aux États-Unis. Il y a certainement une forme de lassitude devant le fardeau impérial qui explique l'élection de Donald Trump. Quand on regarde dans l'histoire, revenons au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, l'Europe est très en retard sur le monde chinois, sur le monde arabo-musulman. En 1700, l'Inde et la Chine font encore le quart du PIB mondial. Néanmoins, l'Europe a réussi à inventer le capitalisme de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait justement cette idée de raison et cette capacité à se remettre en question. Et aujourd'hui, c'est vrai que les choses vont se jouer là-dessus. On évoquait tout à l'heure l'idée d'un nouveau contrat social, un nouveau contrat politique et social. Je crois que c'est une idée fondamentale. Il faut refaire nos nations et il faut retrouver ce que je rappelais, c'est-à-dire une forme d'unité, de solidarité des nations libres face aux grands risques du XXIe siècle. Mais encore aujourd'hui, nos nations possèdent un certain nombre d'atouts extrêmement importants, notamment, même s'il faut les réformer, mais les systèmes éducatifs, parce que c'est ça vraiment qui va faire la clé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, donc l'éducation est évidemment très importante pour l'économie, pour répondre à la révolution numérique. Mais il faut jamais oublier que on ne naît pas citoyen d'une démocratie. On le devient et on le devient par un apprentissage, une éducation à la liberté. Si on ne le fait plus, eh bien, il est certain que la démocratie vivra des jours très rudes. Est-ce qu'on peut arriver à bouger? Je crois que les choses ne sont pas aujourd'hui encore jouées. On voit que on a quand même mieux géré cette crise-là que celle des années 30. On voit qu'il y a des prises de conscience qui s'opèrent, y compris en Europe. Par exemple, en Allemagne, la déclaration de Mme Merkel expliquant que maintenant, les Européens, compte tenu de l'évolution des États-Unis, devaient prendre leur destin entre leurs mains, y compris sur le plan de la sécurité. C'est pratiquement une déclaration que le général de Gaulle aurait pu faire mot pour mot. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Simplement, les choses vont très vite, et c'est vrai qu'il y a une course de vitesse qui est engagée. Les démocraties sont des régimes conservateurs qui réagissent avec toujours un temps de retard. Le temps de retard, nous l'avons pris, maintenant, il faut absolument essayer de revenir dans le jeu, de cantonner les populismes par des politiques qui soient plus inclusives, d'investir très clairement dans les technologies, dans les infrastructures de la mondialisation, et puis de retrouver le sens et la foi dans la liberté.
Comment répondre aussi aux défis sécuritaires? C'est une des questions que vous soulevez dans cet ouvrage, Nicolas Bavray, Violence et passion, défend la liberté à l'âge de l'histoire universelle. Je vous propose, pour ouvrir cette dernière question, d'écouter les mots d'Antoine Garapon, magistrat qui était notre invité l'an passé à l'occasion de la parution de son essai « Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global ».
Le terrorisme révèle une difficulté spécifique à tous les États, mais notamment à la France, à exercer son pouvoir souverain. Et j'en veux pour preuve l'ouverture d'un centre d'un centre contre la radicalisation, le premier ouvert sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et où les garçons qui s'y trouvent, parce qu'il ne s'agit que de garçons, sont là à leur demande. Comme si nous n'étions pas capables de tenir le discours de la loi, en l'occurrence, pour ce qui concerne les juges, d'exercer une contrainte et de l'exercer en ayant confiance en nous-mêmes. Ce que révèle le terrorisme, c'est la fragilité des institutions, pour le dire de manière un peu plus pédante, la désymbolisation. Et il me semble que ce livre est un symptôme de cette désymbolisation des institutions, c'est-à-dire cette perte de substance du pouvoir politique, qui est un pouvoir très original, qui n'est pas un pouvoir personnel, qui est un pouvoir qui est toujours exercé au nom d'eux.
Le terrorisme comme symptôme autant que cause, nous dit le magistrat Antoine Garapon. Est-ce que nos sociétés ont aujourd'hui la ressource ou les ressources suffisantes pour faire face à ce défi, Nicolas Bavray, ou autrement dit, comment protéger nos libertés sans paniquer et sans céder complètement aussi à la demande sécuritaire qui risque elle-même de porter atteinte, et c'est toujours le paradoxe, à ces libertés que vous chérissez?
Il est vrai que quand on regarde les États-Unis, c'est très intéressant de voir qu'on a un investissement sécuritaire énorme, 700 milliards de dollars pour la défense, pour 320 millions d'Américains, et 220 milliards pour 550 millions d'Européens de l'autre côté de l'Atlantique. Et on constate que les stratégies uniquement sécuritaires, militaires, policières, ne suffisent pas à régler les problèmes. D'abord, les États-Unis ont perdu les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Et puis, le terrorisme islamiste est loin d'être jugulé. Il est en train de perdre le vent, mais il essaime des Philippines jusqu'au Nigeria. Et puis, il se reconstruit comme un réseau social au sein des sociétés développées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les seuls stratégies qui peuvent fonctionner sont des stratégies globales. Évidemment, il faut des réponses militaires et policières. Il faut des réponses judiciaires. Et de ce point de vue, la création d'un parquet spécialisé est intéressante en France. Il faut des réponses diplomatiques, des réponses en termes d'aide au développement, des réponses en termes d'inclusion, d'éducation et de marché du travail. Et ça n'est que si on arrive à conduire et à coordonner ces différents instruments qu'on peut espérer sur la durée venir à bout du terrorisme. L'autre limite, alors où la France a une responsabilité directe sur le tout militaire, c'est la situation de la Libye aujourd'hui. L'intervention militaire française coordonnée avec le Royaume-Uni s'est avérée une catastrophe politique et géopolitique. On a transformé ça ne rend pas le régime du colonel Kadhafi plus présentable, mais du moins n'était-il plus un risque stratégique. Aujourd'hui, la Libye est un risque stratégique majeur pour l'Europe à cause du chaos dans lequel elle se trouve plongée.
On a un peu perdu le sens ou le contrôle de l'histoire face à la prolifération de la violence, écrivez-vous. Face à l'escalade de la terreur, les démocraties se sont enfermées dans le déni. Les États-Unis ont cédé au vertige de la surexpansion militaire et de la supériorité technologique. L'Europe a poursuivi son désarmement unilatéral. L'Europe, peut-être un mot sur la question européenne, Antoine,
pour terminer. Sur la question qui est centrale dans votre livre, de la guerre ou de la paix. Puisque vous citez Churchill, en exergue même cette phrase terrible de Churchill, « Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a jamais été réglé autrement que par la guerre. » Alors, ça veut dire qu'il y a un risque pour vous, sérieux, de ce qu'on appelle la guerre dans le monde et en Europe en particulier.
Bien sûr, il y a des risques. Enfin, les risques d'ailleurs, c'est pas des risques futurs, c'est des risques qui existent. Regardez l'Europe froidement. Si vous regardez ses frontières, on part de la mer Baltique jusqu'au Maroc, il n'y a pas un endroit qui ne soit pas en proie à des crises violentes ou à des guerres ouvertes. Quand on part la Crimée, l'Ukraine, ensuite on passe par la Turquie, le Moyen-Orient et toute l'Afrique du Nord entre les situations. Et à chaque fois, on a des situations qui mêlent des situations de guerre civile, parfois à composantes religieuses, l'intervention de puissances régionales et voire l'intervention de puissances mondiales. Donc, les démocraties sont des régimes fondamentalement pacifiques, là encore. Donc, ça n'est pas parce qu'elles ne se veulent pas d'ennemis qu'elles n'en ont pas. Et donc, il faut reconnaître ces situations de crise et se mettre en position de les combattre. Donc, comme je le disais pour l'Europe, à partir du moment où la garantie stratégique des États-Unis n'existe plus, eh bien, il faut créer une Europe, une union de la sécurité qui devrait s'occuper de lutte contre le terrorisme, de cyberdéfense, de protection des infrastructures essentielles et puis de contrôle et de sécurité des frontières du continent.
C'est pas pour autant un appel à la guerre ou un appel à la violence, Nicolas Bavret.
En aucun cas. Le problème, c'est d'ailleurs la grande difficulté des interventions récentes des démocraties, c'est que on sait encore faire la guerre, mais on ne sait plus les gagner et on sait encore moins faire la paix. Donc le but n'est absolument pas. L'Europe n'a pas de rêve impérialiste. Personne en Europe n'a envie d'aller s'étendre, que ce soit du côté de la Russie ou du côté de l'Afrique. En revanche, il est très important d'arriver à recréer un cadre de sécurité pour le continent et d'arriver à stabiliser sa périphérie.
Non, parce que vous citez Churchill, mais vous citez aussi Gandhi dans cet ouvrage. Merci beaucoup Nicolas Bavray, Violence et passion défend la liberté à l'âge de l'histoire universelle. Votre essai vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Claire Maillot et Chloé Leblanc, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin, à la réalisation aujourd'hui Anne-Laure Chanel avec Élise Le. Très bel après-midi à tous.